Natacha Canapé Fontaine, je vous dis quoi? On se voit, on se rencontre, c'est un réel plaisir pour moi. On se rencontre à quelques jours hein, d'un concert bénéfice que dont vous avez l'initiative avec Elissa Pi pour venir un peu en concert bénéfice en soutien à ce qui se passe du côté de la Colombie-Britannique. On va mettre les choses un peu tout de suite au clair. D'abord, je m'excuse parce qu'il y aura des problèmes probablement de prononciation. Il y aura des problèmes de prononciation de ma part, c'est sûr. Mais non, parlons de ça. J'ai reçu le communiqué, donc c'est le concert bénéfice en solidarité avec la nation Wet'suwet'en. Mm-hmm. Bon, c'est passé. Ok. Et dans la présentation, Natacha Canapé-Fontaine, vous dites qu'il s'agit que cette nation, en ce moment, combat pour sa dignité, son respect, son intégrité et surtout sa souveraineté ancestrale et ses droits fondamentaux. En lien avec son territoire et son droit de vivre de son territoire. Quand j'ai lu ça, ou quelqu'un qui ne connaît pas, qui lit ça, il se dit, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui présente dans les médias sur le blocage. Voilà, je vais reprendre le terme qui a été utilisé, le blocage. Comment on explique cette différence de présentation? Comment on l'explique?
Comment on l'explique? En fait, c'est, par exemple, pour moi, comment je vois les blocages, c'est vraiment le symptôme de quelque chose qui est vraiment très profond, qui ne fonctionne pas au niveau des relations entre les nations autochtones et le gouvernement fédéral. En fait, au cours des dernières années, les 10 dernières années, il y a eu le mouvement I Don't Know More qui a été un premier mouvement de grande envergure au pays, qui a été partagé par la majorité des peuples autochtones au pays. Puis il y a eu un certain nombre d'alliés qui s'étaient joints à nous à l'époque, mais c'était encore un petit nombre. Mais à ce moment-là, c'était vraiment un mouvement pan-canadien autochtone. Et dans l'histoire, j'irais nord-américaine, de la résistance des Premières Nations, on ne recense pas une mobilisation aussi grande que ça. Si aussi on pense à Standing Rock, qui a été une mobilisation internationale, mais en nombre, puis en effet, I Don't Know More a vraiment été très très grande, dans le sens qu'aujourd'hui, par exemple, des années plus tard, puis dans les années qui ont suivi, on pouvait compter au moins un article par jour sur les réalités autochtones ou sur les peuples autochtones, alors qu'auparavant, avant 2012, il n'y en avait quasi aucun dans les médias.
Tout à fait.
Et ça a été un des plus grands effets. Puis au départ, c'était des manifestations, c'était des grandes marches qu'on faisait sur des kilomètres pour se rendre à Ottawa, devant le Parlement, etc., etc. Différentes actions qui ont été faites avec le temps. Et souvent, c'est des actions qui sont des mobilisations spontanées qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui s'y présentent, c'est les gens qui ont vu, qui se parlent entre eux et qui souhaitent partager un moment de rencontres mais aussi de mouvements de masse. Et si on regarde 8 ans plus tard, comment est-ce que les relations ont été avec le gouvernement? À l'époque, 2012-2013, c'était Rosa Spence, la chef d'Attawapiskat de l'époque, a fait une grève de la faim pour forcer le gouvernement, les ministres à s'asseoir à la même table que les chefs politiques. Et ça a été vraiment, après 44 jours, cette rencontre-là s'est réalisée, mais ça a pris 44 jours pour Theresa Spence avant de mettre fin à sa grève, pour réussir, en fait, à rassembler ces gens-là pour se parler. Ensuite, dans les 8 dernières années, on a vu Trudeau prendre le mot réconciliation et en faire une campagne électorale pour réussir à obtenir le vote des autochtones et à se faire élire en 2015, entre autres. C'est 2015? Je pense que oui.
Puis, c'est ça.
Puis, à partir de ce moment-là, il a tenté d'en faire une espèce de nouveau processus, puis de vraiment, il a fait des milliers de promesses à différentes communautés et dans ce milieu-là, il n'en a pas réalisé beaucoup, à part peut-être la commission d'enquête nationale des femmes autochtones disparues assassinées, mais encore là, comparé à la commission d'enquête de vérité et réconciliation, il avait imposé un cadre qui n'était pas nécessairement un cadre qui ressemblait aux protocoles et aux principes traditionnels autochtones, et donc ça a été comme déjà... La relation est encore coloniale et colonialiste entre le gouvernement et les communautés, surtout venant de la part du gouvernement.
Okay.
Et en fait, donc, les blocages, c'était une façon comme de démontrer que nous en avons assez, pour dire aussi, pour lancer un message, comme ce qui s'est passé au mois de janvier, puis au mois de février, à Wet'suwet'en, à Unistoden, en fait, ça a été quelque chose de trop. Parce que ce que le gouvernement fait, on se souvient, il a acheté aussi un pipeline il y a quelques années de 4,5 milliards, alors qu'il venait de refuser l'idée de vouloir permettre qu'il y ait de l'eau potable dans chaque communauté autochtone au pays, et ça valait...
Vous dites refuser.
Refuser, et parce que ça lui valerait 5 milliards de dollars, que c'était une trop grosse dépense pour le gouvernement. Mais des années plus tard, il achète le pipeline Trans Mountain pour faire en sorte que ça soit réalisé et construit. Et c'est déjà un énorme affront à l'ensemble des peuples, mais aussi, surtout, justement, au concept de respect, de consultation, mais du respect du consentement au nom des communautés, et du respect même de ses propres lois, de ses propres protocoles par rapport à ses relations avec les peuples autochtones. Et donc, c'est vraiment comme une énorme facette qui se révèle de la part du gouvernement fédéral, de la part de Justin Trudeau. Mais ce qui s'est passé au mois de janvier sur le camp, c'est que les gens, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ça fait 10 ans qu'ils se sont installés, qu'ils ont installé des campements traditionnels où ça permet de faire revivre aussi la tradition,
la culture
qui est vraiment reliée au territoire, qu'on peut pas vraiment vivre nécessairement en communauté, selon ce que le gouvernement fédéral aussi a réalisé comme communauté il y a au moins 150 ans, une centaine d'années. Et ces endroits-là permettent une forme de guérison communauté, une forme de reconnexion. Tu sais. Mais jusqu'ici, ils avaient réussi à bloquer plusieurs projets de pipeline, comme certains articles ont pu rapporter. Mais cette fois-ci, le gouvernement permettait à la compagnie, malgré que la compagnie n'avait pas nécessairement reçu le consentement de la communauté, à continuer de construire sur le territoire des Wet'suwet'en. Et à partir de ce moment-là, les Wet'suwet'en ont quand même, je pense, des documents qui font en sorte que ni le gouvernement fédéral ni la compagnie n'ont le droit de se trouver sur le territoire pour forcer la construction d'un pipeline. Et donc, ils ont les droits légaux de se trouver sur leur territoire et de bloquer ce territoire-là pour empêcher la construction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie a envoyé la police et le gouvernement fédéral, donc en quelque sorte, de derrière, appuie ce mouvement-là de la compagnie. Et la police est venue pour tenter de démanteler le campement, et c'est là que ça a créé les mouvements de mobilisation et aussi de blocage sur les chemins de fer. Et comme certains médias ont pu le rapporter aussi, certains journalistes, mais les chemins de fer sont très reliés à l'histoire de la colonisation du pays, mais aussi de relocalisation, de traumatisme que certains peuples ont vécu, que certaines politiques autochtones aussi ont vécu, puis ça a morcelé beaucoup de nos communautés, beaucoup de notre philosophie, notre politique. Et donc c'est très relié à notre histoire, mais aussi à notre oppression. Et à ce moment-là, donc, c'était une façon pour dire comment, à partir du moment-là, comment on en a assez, mais c'est vraiment comme le gouvernement a vraiment dépassé une certaine limite et on n'en peut plus. Et c'est pour ça que je dis que le blocage est un symptôme de tout ce qui se passe réellement en dessous. C'est comme tu peux le voir, c'est très long à expliquer et à raconter, parce qu'il y a vraiment tout ça qui est derrière. Et les médias, c'est sûr, présentent, les médias de masse surtout présentent ça selon ce que soit la compagnie ou le gouvernement fédéral veut démontrer pour dire que les militants sur les blocus, sur les chemins de fer, sont des gens qui portent atteinte peut-être à la sécurité de la population, portent atteinte à soit à l'intégrité de l'État, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment simplement pour dire qu'on n'en peut plus, et ça, il faut dénoncer ce qui s'est passé là-bas parce que c'est une atteinte à la dignité dignité, au respect et justement à la souveraineté ancestrale de ce peuple-là.
Je suis né au Québec, on s'entend. Se dire que j'arrive sur ce territoire, ce pays, et je vais découvrir un certain nombre de choses. Je conclus que depuis tant d'années, le gouvernement fédéral n'a jamais su finalement comment parler avec les peuples ou les communautés autochtones, c'est ça?
Je pense qu'il n'a jamais su, dans le sens qu'il pourrait le savoir s'il prenait vraiment le temps de soit rencontrer les communautés, voyager sur les communautés, se rendre sur les communautés et ne pas se rendre dans les communautés juste parce qu'il manque d'eau, juste parce qu'il y a un état d'urgence, juste parce qu'il y a un taux de suicide épidémique. Il devrait vraiment réussir à faire le tour des communautés et à dire « si je suis là pour vous aider, mais je vais faire de mon mieux », tu sais, en étant le premier ministre. Alors qu'il arrive, il déblatère son discours qui est pareil toujours partout. Il dit « Je vous promets que je vais vous donner l'eau potable, etc. etc. » Et il repart et on n'entend plus rien. Et donc, comme je dis souvent, c'est les libéraux qui ont créé la loi sur les Indiens. Donc, Trudeau est l'héritier direct de la loi sur les Indiens. Il n'a pas l'intention soit de diminuer les effets négatifs de la loi sur les Indiens sur la vie des individus et des communautés. Mais non seulement il ne veut pas nécessairement apporter de nouvelles modifications ou de penser à l'abolition de la loi et de la remplacer par quelque chose d'autre qui soit vraiment beaucoup plus respectueux de la vie, de la dignité des individus, mais il en bénéficie constamment au quotidien et c'est comme ça qu'il maintient en fait les communautés en dépendance avec l'État et c'est déjà une forme de colonisation et de colonialisme qui existe encore aujourd'hui et dont il est conscient et je pense très très volontaire dans cette démarche.
Natacha Canapé-Fontaine, comment vous réagissez à cet argument qu'on oppose aux communautés quand on dit par exemple que ces blocages, on les comprend, mais ça a un effet sur l'économie par exemple. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Mais je pense que ça a été le même discours quand on a pensé à abolir l'esclavage. Je pense que ça a été le même discours quand on a voulu apporter d'autres modifications comme ça qui portent atteinte à la dignité des êtres humains. Je pense que c'est le même discours souvent quand on veut empêcher un changement d'arriver parce que l'État bénéficie financièrement d'une structure qui porte atteinte à la dignité des gens. Et alors, à ce moment-là, je me dis, c'est normal, ce genre de discours-là. Il faut aussi donc dire, ça s'est passé à différents moments de l'histoire. En ce moment aussi, c'est historique. Et je pense qu'il faut simplement être très ouvert et aller chercher, tenter de trouver la bonne information, de pas se laisser désinformer par justement soit le gouvernement fédéral lui-même, soit par les médias de masse qui rapportent, soit le discours du gouvernement, soit le discours des compagnies, et de comprendre en fait que la dynamique entre les compagnies pétrolières, le gouvernement et surtout les communautés qui sont touchées, autochtones ou non autochtones, qui sont touchées par les passages des pipelines, par l'exportation du pétrole de n'importe quelle façon, ben ces voix-là doivent être entendues et on doit comprendre donc qu'elles sont séparées du gouvernement. Et en même temps, on se rend compte depuis quelques années que les compagnies ont une stratégie de communication très très forte, mettent beaucoup d'argent là-dedans. Donc il faut être conscient de ça aussi et de se dire, bon, est-ce que cette information-là que j'ai, est-ce qu'elle est corrompue ou est-ce qu'elle est vraie? T'sais, donc il faut toujours se poser la question.
Je voudrais profiter de notre entretien pour comprendre ou aider les gens à comprendre quelques petits aspects. On parle de chef héréditaire, on parle aussi après de chef de bande, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, le gouvernement, du moins, on revient encore à ça, mais on a dit oui, mais il y a eu des négociations, on a discuté avec un certain nombre de chefs. Et la réponse du côté des communautés, c'était de dire oui, mais ce sont les chefs héréditaires, je pense, qui ont le dernier mot, si je ne me trompe pas.
Oui, avec la loi sur les Indiens est venue l'imposition par le gouvernement fédéral de structures politiques à l'intérieur des communautés qu'on appelle aujourd'hui conseil de bande.
Conseil de bande, plus exactement.
Et comme je dis, la loi sur les Indiens est raciste et discriminatoire. L'imposition a été de cette structure-là a été une façon de remplacer la politique, la philosophie traditionnelle dans les communautés et faire en sorte de justement continuer l'assimilation de la plupart des communautés, parce que la loi a été créée pour l'assimilation des peuples autochtones, pour vraiment les rendre citoyens canadiens blancs, en fait. Les pensionnats ont servi à ça, etc. Mais l'existence des conseils de bande, au départ, c'est ça. Et donc, souvent, le gouvernement fédéral va faire affaire avec les conseils de bande parce que c'est eux qui dépendent de l'État, justement. Mmh, mmh. Les chefs qui sont élus selon la structure politique a été mise en place. Aujourd'hui, certaines communautés ont réussi à remplacer, la façon d'élire un chef pour se rapprocher de la façon traditionnelle pour choisir un chef, mais comme c'est des conseils de bande qui sont encore très liés au gouvernement, mais c'est encore quelque chose de trop proche, qui risque donc de continuer une certaine corruption de même la philosophie même des communautés. Et dans certaines communautés, ils ont gardé les chefs héréditaires, donc ils ont gardé la façon traditionnelle d'élire des chefs. Et ces chefs-là sont donc des porte-parole, surtout des leaders de leur communauté de génération en génération. Donc, c'est des gens qui reçoivent notamment aussi une formation, en quelque sorte, mais aussi toutes les connaissances que leur famille garde.
Tout à fait.
Et dont elles ont été choisies pour garder ces connaissances-là.
Les transmettre.
Puis toute la philosophie traditionnelle, c'est eux les gardiens de ça. Donc, c'est important pour eux de continuer à transmettre ça. Puis si certaines communautés, certaines nations ont réussi à garder ça, c'est aussi, pour moi, à mon sens, assez miraculeux. Dans le sens que si on regarde dans l'histoire du Canada, toutes les tentatives d'assimilation très, très violentes qui ont été faites à l'encontre des communautés autochtones, mais c'est déjà pour moi quelque chose de grand que ces chefs-là existent encore aujourd'hui et qui parlent pas selon ce que le gouvernement fédéral
veut entendre,
mais parlent selon ce que leur philosophie, leur tradition leur disent de faire et de penser. Et à ce moment-là, je trouve qu'il y a une plus grande pureté de ce côté-là. Il y a toujours un risque de corruption, mais une plus grande pureté de ce côté-là que du côté des chefs politiques.
Je voudrais ramener ça un peu au Québec ici, puisqu'on a vu que du côté de Ganawake aussi, il y a eu des problèmes. On a eu des sorties avec du premier ministre, qui est allé, bon, on le connaît, déclaration en déclaration, parfois un peu, je dirais, hors normes, comme cette fameuse, la dernière, selon laquelle il y avait des armes à l'intérieur de la communauté. Mais ceci dit, on a eu un sondage qui est paru, je pense, il y a 2 jours, pour dire que les Québécois, je pense autour de 70% à peu près, si le 60%, c'est ça, 60% appuyaient le mouvement. Quand vous lisez ça, est-ce que ça fait du bien?
Ça fait du bien d'avoir en fait une genre d'étude qui nous prouve ça. Parce que depuis longtemps déjà, je voyage partout au Québec, je continue à circuler sur le territoire. Et pour moi, en tant qu'autrice, j'ai besoin aussi de comprendre où en sont les gens, où en est la population québécoise, surtout blanche, par rapport à leur relation avec les Autochtones. Pas nécessairement leur relation, mais simplement leur compréhension de l'existence des enjeux et des réalités chez les peuples autochtones. Et comment est-ce que dans certaines régions, il y a plusieurs collaborations qui naissent, plusieurs initiatives qui sont faites étroitement entre les communautés, les villes ou les villages, les communautés. Et j'avais l'impression, donc, à mon sens, que j'observais en fait quelque chose de nouveau qui a déjà peut-être pu exister sur les territoires dans l'histoire, bien qui a été justement effacé avec les actions du gouvernement fédéral avec le temps ou avec la crise d'Oka justement il y a 30 ans à un point où ça a vraiment créé une espèce de grand vide entre les Autochtones et les Québécois, c'est l'ensemble des Québécois. Puis, depuis Idle No More, depuis quelques années, j'avais l'impression donc qu'on se rapprochait de plus en plus, qu'on avait de plus en plus une conversation. Les gens ont beaucoup de questions, mais plus ça va, plus quand je retourne dans les écoles aussi, les jeunes ont vraiment des questions beaucoup plus poussées, avancées, alors qu'il y a 10 ans, c'était des gens qui comprenaient rien du tout par rapport, ils savaient même pas que les peuples autochtones existaient encore il y a 10 ans, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on en parle, et avec mon expérience aussi à la télévision, les gens maintenant me croisent dans la rue, me reconnaissent, mais souvent prennent le temps de me
parler.
Dire, oui, de me dire. Avant, j'avais des préjugés. Maintenant, grâce à vous, les différents intervenants dans les médias, j'en ai moins. Certains avouent que certains préjugés persistent encore, mais ils savent que c'est leur éducation, tu sais. Mm-hmm. Ils savent que c'est pas eux nécessairement qui sont vraiment comme racistes et qui veulent vraiment être discriminatoires. Mm-hmm. Et ils me disent que maintenant ils défendent la cause des Autochtones quand ils entendent des discours plutôt racistes ou plutôt, comment je dirais, contraires autour d'eux, tu sais. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire, je pense, dans le sens que avant j'avais des préjugés, maintenant j'en ai plus et on vous défend. Et je me dis, je pense qu'à ce moment-là, on est plusieurs au cours des dernières années à avoir donné nos vies, en fait, pour faire en sorte que ces réflexions-là avancent, mais aussi que les savoirs, les connaissances
soit diffuse un peu partout, voilà.
Ça,
ouais,
que les gens aient accès à ça, parce que on sait, les cours d'histoire, les écoles pendant longtemps n'ont jamais pu vraiment fournir l'information sur ce qu'on donne comme information, puis sur tous les sujets qu'on peut aborder. Et de se dire, OK, on n'a pas fait ça pour rien finalement, puis finalement les gens même disent qu'ils en parlent autour d'eux et qu'ils comprennent maintenant beaucoup de choses. Ils sont capables donc de l'expliquer eux-mêmes. Et je me dis, on est vraiment rendu à un autre stade. Et donc, à ce moment-là, dans les dernières semaines, je voyais en quelque sorte tous les commentaires assis sur le web. Mais avec le temps, j'ai appris aussi qu'on peut pas se fier dans ces moments-là, se fier sur les réseaux sociaux, parce que moi, quand je vais faire des spectacles, quand je vais faire des lectures, quand je vais dans les salons du livre, c'est pas ça que je rencontre.
Tout à fait.
Et dans le sens que c'est sûr, c'est des lieux précis, mais comme je dis, dans la rue, il y a plein de gens qui m'abordent et j'ai pas l'impression, donc c'est pas nécessairement des gens qui vont voir du théâtre, qui vont voir des lectures de poésie, c'est pas nécessairement des gens qui vont aller là où je m'en vais.
Oui. Mmh.
Mais c'est des gens qui me disent qu'ils sont conscients, donc je me dis, c'est comme beaucoup plus qu'on imagine. Et donc, cette étude-là, je sais comme, mais c'est ça,
c'est exactement la réalité,
oui,
quoi.
C'est mm-hmm. ça. Ce que mm-hmm. je voyais sur les réseaux, c'est pas ça du tout. J'ai pas l'impression que les gens sont racistes. Mm-hmm. En fait, tu sais, c'est...
Mais il y a aussi le fait que des figures autochtones elles ont toujours existé, mais sont beaucoup plus publiques. Je m'adresse à vous, mais justement, et ça nous amène à l'objet un peu de notre entretien avec Elie Sapie, c'est-à-dire vous êtes dans l'espace public, vous parlez avec les gens, surtout vous êtes dans des métiers où vous rencontrez les gens. Il y a aussi ça, je pense, qui change la perception, la compréhension. Et donc, ce concert bénéfice, vous en avez pris l'initiative. Pour quel objectif exactement? Je veux dire, faire un concert bénéfice, dans quel but?
Mais le premier, c'est sûr, c'est de d'amasser des fonds mm-hmm. pour aider la nation, mais surtout le camp Unistoden, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations au cours de la dernière semaine, mais aussi c'est pour les aider à continuer la lutte. Et donc, c'est vraiment pour, surtout, je vais vous dire comment dire ça, pallier à leurs fonds légaux,
okay.
À la base, puis en même temps, je pense que, mettons, d'un point de vue d'autrice, justement, quand j'observe ça en sortant un peu de la situation, je me dis, à quel moment a-t-on eu un spectacle comme ça organisé par deux personnes autochtones qui ont des grandes tribunes, qui ont la chance aussi de partager dans différents domaines la scène ou justement ces tribunes-là avec d'autres personnes. On a des liens depuis des années, de nombreuses années, avec des gens qui ne sont pas autochtones, qui sont dans le milieu depuis longtemps, qui avant peut-être ne savaient pas trop comment aborder les sujets, comment défendre les causes autochtones, mais aujourd'hui, c'est des gens à qui on a donné les outils et on leur donne aussi, j'ai l'impression, l'occasion de monter sur scène avec nous et de dire, regardez, nous, ça nous concerne parce que ça nous touche, mais les questions de respect, de dignité, de solidarité, c'est nous, tu sais, on a besoin de solidarité, mm-hmm. on a besoin aussi de cette solidarité-là pour valider, en fait, le fait qu'il faut qu'on nous respecte, tu sais, et que ce soit un message qui soit porté par tout le monde. Mm-hmm. Et ce spectacle-là sert, donc, je pense notamment à ces deux choses-là, rassembler et amasser des fonds pour aider le camp Unistoten à continuer la lutte. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça ne peut que créer vraiment un grand moment d'unité, je pense, où les gens se sentent vraiment inclus, les gens sentent qu'ils ont... surtout ceux qui se sentent moins à l'aise de parler de ces... surtout les Blancs qui se sentent moins à l'aise de porter les causes autochtones, mais on leur donne une occasion, puis un lieu pour dire « Non, venez, vous avez le droit de nous défendre, parler, tu sais, comme délier la langue. » Vous avez tous les outils, allez vous informer sur les réseaux, sur Internet. Maintenant, on a tellement donné d'entrevues au cours des 10 dernières années. Vous avez tous les outils maintenant. Allez-y, puis après, comme parlez-en autour de vous. Mais à partir de ce moment-là, je me dis, la mobilisation, l'union est possible pour une même cause aussi importante que celle-là, qui est celle donc de la dignité des peuples, mais surtout de tous ceux-mêmes qui vivent une certaine oppression. Et donc on se dit, je pense que c'est historique ce qui se passe, et on veut comme participer à ce mouvement-là aussi.
C'est tellement beau, on s'arrête là.
D'accord.
Je vous dis Chinashkumitin, ai-je bien prononcé?
Oui, absolument.
Merci beaucoup Natacha Canapé-Fontaine.
Merci.
Vos thé est tout froid là.
Non, il est chaud.
Ah, ok.
Il était trop chaud tout à l'heure.
D'accord.